aux années 90, en fait, l'Internet était compris, vous le savez, comme un outil d'émancipation, comme un outil dans lequel les publics s'appropriaient pour rendre visible leur cause, car il était compris comme en dehors des médias, du monopole des médias officiels. Ça, c'est très parlant pour les gens qui travaillent avec des corpus provenant de l'Amérique latine. Je pense que c'est ça peut peut-être aussi être le cas en France. Je montrerai quelques exemples. Je pense par exemple à toute la mouvance des hashtags MeToo aux États-Unis, Balance ton port en France. Des choses plus récentes pour les gens qui sont contextualisés ou sensibilisés au contexte latino-américain aussi. C'était le cas de Gage Piñera. C'est le président chilien qui vit. On est en crise aujourd'hui partout, compris le Chili. Et nous sommes en crise depuis le 18 octobre. Et il a eu tout, pareil, toute une mobilisation au sein des réseaux sociaux, mais aussi dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, où les gens se sont manifestés pour la démission du président actuel. Le printemps arabe, il a constitué un exemple iconique de comment le public puisse être mobilisé au sein de l'espace numérique. Et Manuel Castells le décrit dans ses textes. Néanmoins, il ne faut jamais penser que la mobilisation numérique, elle passe en dehors de l'espace public. Je l'ai déjà dit, je la répète à nouveau au cas où ça ne soit pas clair. Mais en fait, en Tunisie, ce qui s'est passé, la diffusion des vidéos sur les violences policières dans la rue ont permis que la mobilisation s'organise, qu'elle sera visible, mais elle n'était pas en dehors de l'espace public. Bien, donc, les citoyens ont trouvé un espace au sein d'Internet où ils partagent leurs problèmes sociaux et politiques en général. Néanmoins, depuis quelques années, on a compris qu'Internet aussi, il a eu un changement de discours autour d'Internet, où on comprend qu'Internet est devenu aussi un instrument pour d'oppression. J'ai fait référence au texte de Morozov 2011, où Internet serait devenu un instrument de contrôle décentralisé, c'est-à-dire n'est pas à la façon foucauldienne d'un panoptisme où il y a l'image d'un surveillant central qui peut observer le reste, mais il est plus diversifié et au sein du numérique. Donc on parle d'une surveillance liquide, je fais référence au texte de David Lyon et Sigmund Bauman de 2008, mais les autres auteurs vont nommer ce type de surveillance comme un nouveau type de surveillance et ils vont les nommer différemment. Okay? C'est juste une façon, un point de vue. Et indépendant de la façon comme on nomme cet aspect, on est tous, plus ou moins, je pense parce que vous êtes au cours de séminaire, mais plus ou moins, sensibilisés à certains types de surveillance qui sont plus nocifs et des autres qui les sont moins. Donc, par exemple, j'ai fait... là, il y a trois exemples. Et en bas, à gauche, il y a une application qui permet de surveiller les rythmes cardiaques. En bas, à droite, il y a une application de l'iPhone qui permet de surveiller les temps devant l'écran et les limiter si on surpasse un certain niveau. Donc, c'est autocontrôlé aussi. Et en haut, il y a l'historique des visionnages de tout ce qu'on a vu sur Netflix. C'est très impressionnant. Ça, c'est un des derniers exemples que j'ai découvert. Ça, c'est pas mon compte. J'ai pas voulu la déclarer. Je veux pas que vous sachiez qu'est-ce que je regarde. Mais j'ai fait l'exercice avec mon propre compte. Enfin, qui c'est pas la mienne, mais qui appartient à 10 000 autres personnes, mais que nous partageons. Et en fait, c'est assez impressionnant parce qu'il y a les visionnages dès le début de Netflix. Donc, en fait, on va recevoir un CSV ou comme un fichier Excel avec tous les visionnages qu'on a fait, les temps qu'on a passé devant, les temps qu'on a coupé, etc. Bon, donc là, trois exemples qui nous permettent d'observer que la surveillance fait partie de notre quotidien, néanmoins de façon plus ou moins nocive. Ok, ça c'est un point que je traiterai plus tard. Alors, dans ce cadre de surveillance émergente, de surveillance numérique émergente, nous distinguons au moins deux raisons principales qui ont fait émerger ce type de surveillance. D'une part, la peur croissante envers le terrorisme ont fait que plusieurs lois dites exceptionnelles, mais que je vous dis sont très normalisées, voire dans les cas français, ils ont fait émerger des dispositifs de surveillance contrôlés par les services de sécurité nationale. C'est le cas de Patriot Act aux États-Unis suite aux attentats des 11 septembre 2001, qui ont permis d'accéder aux données informatiques sans autorisation préalable envers les personnes qui étaient surveillées, en fait, afin d'obtenir des informations sur les individus soi-disant soupçonnés de terrorisme. Donc, il avait une vigilance pour tout le monde afin d'identifier certain. Vous voyez l'idée. C'est exactement le même cas après les attentats en France 2015, enfin à Paris, où des boîtes noires, des serveurs sont mis dans des serveurs d'accès à Internet. Et pareil, afin de surveiller et des cas, des potentiels actes terroristes. Plusieurs chercheurs ont mis en évidence que c'est un outil qui ne sert pas à cette identification. Donc en fait, il y a une légalisation de surveillance qui est faite à tout le monde. Voilà. Et Armand Madlar, en 2009, déclare que nous serons face à une démocratie qui est restreinte, c'est-à-dire qui comprend l'instauration d'un régime des sections d'urgence permanentes, c'est le cas en France avec les vigipirates, un élargissement des pouvoirs de la police et la diminution des pouvoirs judiciaires, et toute une série d'espaces de liberté commencent à perdre des terrains, compris l'espace numérique. Bien. Deuxième point, en fait, la surveillance actuellement est également possible car les numériques, et toutes les nouvelles formes de participation sur le net ont trouvé une place économique. C'est-à-dire, et la traçabilité et postérieure monétarisation de nos traces sur le net, et attention, non pas seulement nos traces déclarées, c'est-à-dire par exemple, imaginons ce matin, j'ai mis sur mon Facebook, je viens au séminaire Caen, et deux petits points, super cool. En fait, ça, c'est une trace que je déclare. Donc en fait, on ne l'appelle pas trop trace, on l'appelle plutôt une donnée, parce que c'est une donnée que moi-même j'expose. Ok, un certain cercle d'amis, mais que j'expose sur un certain réseau social, c'est contraire aux traces. Par exemple, aujourd'hui, j'ai googlé quelqu'un sur Internet ou sur un moteur de recherche. Google, c'est une marque, mais sur un moteur de recherche, j'ai cherché quelqu'un. Bah, c'est une trace que je ne voulais pas forcément déclarer sur mon profil, entre guillemets, public, au pseudo-public. Vous voyez ? Donc, en fait, ces traces, plus les données que moi, déclarativement, j'expose face au numérique, elles sont plus tard devenue un produit monétarisé car elle sert à faire un ciblage publicitaire qui est de plus en plus fin, ce qu'on appelle un micro-ciblage. Et nous tous, on a été témoins sur Amazon ou un autre type de cherche de lieux d'achat et des ventes. Quand nous avons cherché hier des chaussures pour aller faire du ski, demain, on va avoir des publicités, des chaussures pour aller faire du ski. En gros, ça met en évidence donc, qu'il y a un ciblage de nos traces qui sont sur le net. Et dans ce livre qui s'appelle « À qui profitent les clics ?», ces deux auteurs, elles vont dire en fait que les GAFA, c'est 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel en 2013, c'est-à-dire c'est plus de 800 milliards cumulés en bourse. Et à l'horizon 2020, on va voir cette année, on estime qu'il y a 1 000 milliards d'euros, soit les 8% du PIB européen, sera la valeur produite par les données en Europe. Donc en fait, ça c'est un exemple pour dire que en fait, les données, ils sont en valeur concrète et particulière, non pas individuelle, parce que si moi personnellement je voudrais vendre mes données, ils seraient aucune valeur, mais toutes les données ensemble, oui, ils seraient en valeur. Oui. Dans ce contexte, il faudrait dire aussi que, pour certains auteurs, ce type de conséquences, ces deux aspects, ils seraient d'une part la conséquence des gestes volontaires des auto-expositions sur les réseaux sociaux. C'est le classique argument qu'on entend partout. « Oh, la jeunesse aujourd'hui, elle s'expose tellement. » Et pour des autres auteurs et auteurs, femmes, il serait aussi une manque des lois qui soient en accord avec ce type de données, ce type de traces, comme je disais tout à l'heure, qui s'exposent sur le net. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié cet aspect qui est plus légal, en fait, mais je vous attire l'attention sur un texte de Francesca Muziani, publié en 2016, qui s'appelle « Internet des vies privées ». C'est un tout petit texte qui explique, elle fait un énorme travail de recension de toutes les lois au niveau européen et aussi français, où elle explique, en fait, comment les règlements pour les données générales, pour les données personnelles ou autres types de lois, en fait, sont très difficilement applicables au contexte actuel dans lequel l'économie du numérique, en fait, est fondamentalement guidée par les GAFAM et autres. Voilà. Je rentre maintenant en détail sur parmi cet univers et parmi cette mouvance. Moi, je me suis intéressée sur un scandale qui s'appelle les scandales Cambridge Analytica, dont vous avez dû entendre parler, je pense. Et c'était une société londonienne des publications stratégiques qui a été créée en 2013 et fermée, qui a été fermée plus tard après le scandale en 2018 et qui combinait l'analyse et l'exploitation des données pour des campagnes électorales. Le slogan de cette société était « Les données conduisent tout ce que nous faisons ». La mission était de changer les comportements grâce aux données avec des méthodes qui combinaient la psychométrie, la psychologie comportementale et les traitements de données quantitatives. L'accès aux données était possible grâce à une application qui s'appelait Your Digital Life, qui a été créée par un chercheur de l'Université de Cambridge et qui a permis, une fois en cliquant sur l'application, a permis d'absorber ou voler, selon les points de vue, et les données de ceux qui utilisaient l'application, mais aussi, grave, des amis, des amis entre guillemets, des contacts des gens qui ont utilisé cette application. Et ça c'était donc en 2018. Et sachez que récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer une application qui s'appelait FaceApp, vous l'avez vu, qui nous faisait vieillir en fait, plus questionner, et qui nous permettait de nous voir d'ici à 40, 50 ans, etc. Et pareil, les conditions d'utilisation qui étaient déclarées, parce qu'avec les règlements aujourd'hui, il faut déclarer ces conditions d'utilisation, étaient en gros qu'ils allaient pouvoir voler en fait des communs accords ou d'accord du consommateur de cette application, tout nous voler. Bon, mais bon, bref, c'est pour donner un exemple qui est plus récent, parce que l'application This is Your Digital Life, je sais pas, je pense qu'on la connaît beaucoup moins, contrairement à celle qui est plus actuelle. Bien, les scandales, une petite vidéo où il y a les directeurs de Cambridge Analytica qui fait une conférence qui s'appelle What is Big Data, et qu'il a fait, Alexandre Nick s'appelle lui, il l'a fait en 2016, donc des années avant les scandales. Bon, lui, il explique en gros dans cet extrait de conférence, il explique d'où il provient tous les données, et donc il explique comment il utilise cette méthode, ce qui a fait qu'en 2016, les candidats aux États-Unis républicains Ted Cruz, il passe d'un pourcentage, et je ne me rappelle pas trop les pourcentages parce que c'est dans la vidéo, mais on va dire de 6% à 16% de vote, il a fait à travers cet outil, à travers cet outil, voilà, qui est en gros sur la base de cette entreprise qui est Cambridge Analytica, où parmi tous les lieux d'où il extrait les données, il y a les logos de Facebook. Donc en fait, l'information de l'extraction de données à travers Facebook était quelque chose d'accessible et pour nous, voilà. Néanmoins, ça ne devient pas un scandale à cette époque-là. D'ailleurs, en 2015, les mêmes journaux qui ont sorti, entre guillemets, à la lumière les scandales, ils avaient déjà publié des articles en dénonçant ces questions. Mais c'est beaucoup plus tard que ça devient un scandale pour l'opinion publique. Et je pense que ça fait une partie de toute mon hypothèse, que c'est comment ça devient, comment ça fait émerger la problématique de la surveillance comme problème public. Bien. Donc, comme je disais, le scandale voit le jour le 17 mars 2018, lorsque des journaux comme The Guardian, The New York Times ou The Observateur, grâce à des informations fournies par les lanceurs d'alerte qui s'appelle Christopher Weil, il accuse Cambridge Analytica d'avoir utilisé des données privées provenant des comptes Facebook pour influencer la campagne de Donald Trump. Oui, ça c'était la première association au cas et sur laquelle a été fait le scandale. En fait, c'est pas Ted Cruz passe vraiment rapidement, mais c'était quand c'était pour influencer les votes de Donald Trump que cela devient vraiment un souci. En avril et mai 2018, donc le scandale a commencé, guillemets commencé, hein, parce qu'on est d'accord que déterminer la date de début d'un scandale est complexe, mais on va dire pour aujourd'hui, le scandale commence, voit la lumière le 17 mars. En mai, avril et mai 2018, de la même année, donc très peu longtemps après, Mark Zuckerberg, le fondateur et PDG de Facebook, est auditionné par le Sénat américain et le Parlement européen, où il admet que l'entreprise a collecté, je dis bien collecté et non pas volé, les données de 87 millions de comptes sans le consentement des utilisateurs. Je dis bien sans le consentement des utilisateurs, parce qu'à l'époque, rappelez-vous qu'il n'y avait pas les règlements européens qui obligent au consentement. Oui, néanmoins, on se trouve bien que le consentement est très fragile, parce qu'en fait, sinon on ne peut pas utiliser l'application si on n'accède pas au consentement, vous voyez ? plusieurs applications. Bien, donc, il est auditionné. Dans l'audition, pareil, j'ai un petit fragment d'une vidéo où un des personnes lui demande à Mark Zuckerberg et il lui dit, en fait, messieurs, vous, est-ce que vous pouvez dire publiquement dans quel hôtel vous dormez aujourd'hui ? Vous êtes logé aujourd'hui ? Et il dit, ah non, ça fait partie de ma vie privée, ma vie personnelle, vous voyez ? Donc, il y a un jeu de mots comme ça, de dire, en fait... Et pareil, plusieurs chercheurs font le même exercice. Aujourd'hui, si je vous dis à vous, donnez-moi les mots de passe de Facebook, même si vous n'avez rien à cacher, parce que c'est l'argument de la plupart des gens, non, mais je n'ai rien à cacher, ce n'est pas grave, si quelqu'un regarde mes informations, en fait, il y a une partie qui correspond à notre vie privée, et notre vie privée aussi, il y a un intérêt dans les numériques. Bien. Non, je dirais pas fin de scandale. Non, ça c'est très très très, j'ai très très mal dit ça. Mais je m'arrête dans les scandales où la loi qui date de 1998 applique à des protections de données applique à Facebook une amende de 684 000 dollars qui équivaut à 5 minutes. D'argent en fait de Facebook, donc c'est une amende qui est complètement absurde par rapport au niveau d'argent que cette entreprise elle possède. Bien, Cambridge Analytica, qu'est-ce qui se passe après? Elle se déclare en faillite, elle ferme ses portes. Néanmoins, il y a une entreprise mère de cette sous-entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica qui continue à fonctionner, et comme Cambridge Analytica il y a plusieurs autres entreprises. Reste intéressant aussi à voir pourquoi est-ce que cette entreprise-là, elle a fait un scandale et non pas des autres micro-entreprises de ciblage qui font la même chose, qui ont les mêmes procédures. Mais ça ne fait pas partie de mes recherches. Bien. Donc, trois points de vue. Nous passons maintenant à l'approche théorique et méthodologique. J'ai trois points de vue principaux sur lesquels je me base pour étudier cet scandale. La première chose, c'est de dire... D'abord, les scandales se définissent comme des actions ou des événements impliquant certains types de transgressions qui sont dévoilés à des tiers et qui sont suffisamment graves pour provoquer une réponse publique. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, face à l'utilisation croissante d'Internet, il y a une série de scandales qui sont liés au numérique, qui regroupe une série d'événements dans lesquels les réseaux sociaux et Internet sont interrogés publiquement qui dénoncent la manipulation politique, des fausses nouvelles, des actes de censure, etc., etc. Il serait aussi intéressant, ce n'est pas l'objet de mes recherches pour l'instant, mais il serait aussi intéressant de faire une typologie de ce type de scandale, parce qu'à mon avis, il constitue toute une famille de scandales qui fonctionnent et qui naissent aussi dans l'émergence de ce problème comme problème public. Mais j'insiste, ça ne fait pas partie de mes recherches aujourd'hui. Bien, d'un point de vue pragmatiste, qui c'est le point de vue que j'emploie pour comprendre qu'est-ce que c'est un problème public, l'étude des problèmes publics, compris les scandales, ils peuvent être un déclencheur de la mobilisation politique, c'est-à-dire ils peuvent être compris comme une épreuve, une situation dans laquelle les individus se mobilisent et qui peuvent réformer l'ordre social. Je mets ça en conditionnel, même si mon accent ne les laisse pas voir, mais je dis conditionnel parce que ça ne veut pas dire que s'il y a un scandale, il y a forcément une mobilisation et forcément cette mobilisation qui va déclencher un refondement de l'ordre public. Vous voyez ? Dans ces cas-là, il y a eu cet exercice, mais ça peut très bien marcher dans un autre problème public où cette théorie idéale ne fonctionne pas dans les terrains. Bien, Luc Boltanski va dire que la dénonciation d'un scandale donc, peut constituer une médiation nécessaire dès l'orientation envers l'action collective. Selon John Dewey, tous les auteurs que je cite maintenant, ils sont recensés à droite de votre écran. Et selon John Dewey, il serait possible, grâce à la perception par des individus des conséquences d'un problème donné, et que ces problèmes deviennent un problème public, mais aussi que les conséquences... et il soit reconnu par les personnes qui sont directement affectées par les problèmes, mais aussi par des tiers qui ne sont pas forcément impliqués directement par la problématique. C'est seulement la perception de la conséquence de ces autres types de personnes qui pourraient faire la constitution d'un public. Vous voyez ? Donc ce n'est pas seulement les impliqués, c'est aussi les gens qui sont autour. Et c'est ça qui fait devenir un problème public. C'est ça qui ferait conditionnel. Je ne sais pas comment le faire. Ben... Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et c'est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant le scandale Cambridge Analytica. Qu'est-ce qui se passe quand la perception des conséquences d'un problème est presque invisible ou volontairement invisibilisée aux yeux des internautes? Vous voyez? Donc en fait, comment c'est possible de percevoir les conséquences de la traçabilité de nos données sur le net si on est très peu sensibilisé à la question et nous voyons très peu comment cela fonctionne derrière. Vous voyez, on ne voit pas les entrailles et les structures qui derrière fonctionnent. Pire encore, il a été tellement fictionalisé la surveillance qu'on a l'intuition, l'idée que c'est quelque chose qui passe en Chine, qui passe dans des lieux non démocratiques, guillemets, ou qui passerait dans un futur dystopique, comme c'est le cas de toutes les séries sur Netflix qu'on peut voir tous les jours. Vous voyez? Donc en fait, cette fictionnalisation a desservi la cause de la prise de conscience de la surveillance en régime numérique. Vous voyez? Bien, donc c'est là que le problème devient intéressant, c'est là que la question de la sensibilisation au problème devient intéressant. Nous savons déjà, et j'ai déjà dit tout à l'heure, que la surveillance numérique, elle est aperspectiviste, elle est décentralisée, elle est indolore, elle est fluide, en fonction de l'auteur qui va nommer cette question-là. Néanmoins, elle est, voilà, invisibilisée ou invisible, selon les points de vue. Bien, la première hypothèse, donc, dans ma recherche, serait de dire que les scandales Cambridge Analytica auraient rendu visible l'ampleur de la surveillance numérique et ses conséquences, c'est ce qui a permis le déclenchement des problèmes publics. Ok? Ça, c'est ma grosse hypothèse que j'essaye de mener dans tous mes surcorpus d'analyse que vous allez voir aujourd'hui en exemple. Bien, deuxième point d'entrée théorique et méthodologique à la fois, c'est la notion d'empowerment. Bien, cette notion, je l'incorpore comme une grille de lecture sur la base d'une définition qui est résolument radicale, c'est-à-dire l'empowerment est compris comme un processus sociopolitique qui articule l'acquisition des capacités individuelles, mais aussi d'engagement collectif qui vise une action transformatrice, c'est-à-dire émancipatrice. Je me base et avec passion sur les travaux de Paulo Freire, l'auteur et intellectuel brésilien, et fondamentalement très méconnu dans le monde francophone. Bon, donc lui, il va expliquer dans Pédagogie de l'opprimé, il va expliquer sa théorie comme une pédagogie des hommes engagés dans la lutte pour leur libération. Elle s'encadre dans les opprimés eux-mêmes qui se connaissent ou commencent à se reconnaître de manière critique comme en étant opprimés. Donc il y a trois facteurs. Donc il y a d'abord une prise de conscience individuelle, collective, mais qui aussi va envers le social. Ça, ce serait trois aspects de l'empowerment selon le point de vue de Freire, mais c'est très méthodologisé dans mes travaux. C'est-à-dire que ça fonctionne de façon beaucoup plus fluide. Okay? Néanmoins, moi, je les ai divisés, bien séparés, pour pouvoir étudier mes données. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne comme ça. Bien. Donc, l'auteur décrit un processus de transformation sociale qui s'appuie sur la pratique d'une dite mot-clé « conscientisation ». Ça, c'est un mot qui apparaît dans tous les travaux de Freire, par laquelle les opprimés analysent collectivement leur situation, prennent conscience de leur oppression et s'organisent pour changer la structure de la société. Freire parle que seulement la réflexion conduit à la pratique. C'est-à-dire que pour qu'il ait une pratique d'engagement qui vise l'émancipation, il faut absolument qu'il existe une réflexion. C'est ce qu'il appelle, deuxième mot-clé, la praxis. Okay? Donc c'est l'action, mais à la fois c'est la réflexion critique sur l'entourage dans lequel nous nous insérons. Bien, Freire va distinguer deux moments interconnectés dans sa théorie. Les premières dans lesquelles les opprimés vont découvrir le monde de l'oppression et ils vont s'engager dans la praxis avec sa transformation. Et le deuxième, c'est quand la réalité, dans un monde idéal, hein, quand la réalité a été transformée, la pédagogie ne serait plus celle des opprimés, mais des hommes aux femmes, un processus de libération permanente. Okay? Donc il y a ces deux faces qui sont complémentaires, qui sont présentes. Bien, j'ai fini avec Paulo Freire et je passe maintenant à troisième volet de mon point de vue théorique et méthodologique qui vient depuis mes études de master, que j'ai réutilisé dans mes études de doctorat et qui encore je tiens à réutiliser dans ces projets, qui c'est l'analyse des discours avec une forte ancrage dans les théories françaises qui ont dit d'analyse des discours. Donc, je pars de la base que le langage participe à la construction d'un sens social de ces événements du monde. L'analyse des discours chercherait à décrire les mécanismes qui régissent l'aspect symbolique du discours. Selon Charbonneau, les médias participent, c'est-à-dire les médias ne sont pas les seuls facteurs, mais ils participent à donner sens à un événement, en classant un événement, en hiérarchisant les informations et notamment les faits de ces événements. Alors, cela ne veut pas dire que le langage est transparent, c'est-à-dire que l'instance d'énonciation se comprend de la même façon dans l'instance de réception. Moi, je n'analyse pas la réception pour l'instant. Néanmoins, il faut partir de cette base. Sinon, tous les malentendus n'existeraient pas dans nos vies. Hein. Tous les problèmes que j'ai des couples, ils n'existeraient pas parce que le langage n'est pas transparent. Vous voyez ? Donc, en fait, nous arrêtons dans notre analyse. Dans mon analyse, je m'arrête seulement à la partie annonciative du discours et non pas à la partie de réception du discours. On analyse les intentions du discours, mais on ne peut pas analyser les effets de ces discours et quels effets ils sont dans la vie réelle, entre guillemets. L'autre aussi, c'est la vie réelle. Hein. Mais je dis ça pour qu'on puisse nous comprendre. Bien, dans cette ligne de pensée, il y a différents auteurs qui sont aussi cités à gauche de votre écran. Par exemple, Marie Vénard, qui en 2013... qui s'intéressait par l'étude de conflits militaires, des conflits militaires en général, elle montre comment la nomination, donc est mon observable de tous les matériels langagés que je peux observer, c'est seulement un aspect que c'est la nomination. Elle va dire que la nomination, elle participe à l'attribution d'un sens social d'un événement, elle peut guider les passés, mais aussi l'avenir, c'est-à-dire la façon dont on nomme un événement, il peut affecter les passés, et aussi les futurs de cet événement. Si on nomme, dans mon cas, cet événement un scandale, il a une portée différente si on l'appelle les cas Cambridge Analytica. Dans cette ligne de pensée, plusieurs auteurs suggèrent que Twitter, dans ces lieux, est un espace privilégié pour observer comment les internautes contribuent à la constitution symbolique d'un événement. Elle et ses auteurs, ils concluent que sur les réseaux sociaux, les internautes ne transmettent pas seulement l'événement, au contraire, grâce aux opérateurs de Twitter comme les hashtags, les internautes vont négocier le significat, discuter sur l'événement et sur les références auxquelles cet événement fait écho, vous voyez ? Donc en fait, c'est pour ça que c'est super délicat quand on utilise pour nos travaux des matériaux provenant de Twitter, comme va être le cas que je vous montre aujourd'hui, de dire en fait un retweet équivaut à une prise de position favorable. Parce que ça peut marcher, dans la plupart des cas d'ailleurs, ça peut marcher à l'inverse. Vous voyez, en fait, on peut retweeter pour contredire, on peut retweeter pour se moquer, on peut retweeter pour ironiser, vous voyez. Donc en fait, il faut faire gaffe aussi avec ce type de choses. Bon. Bref. Donc, j'utilise la notion de nomination des événements dans un contexte pour les cas aujourd'hui et principalement digital. Néanmoins, comme je vous avais dit, ça fait partie d'un projet plus large où nous analysons la nomination de cet événement, mais aussi dans la presse, la nomination de cet événement aussi dans les cas des discours des militants contre la lutte, contre la surveillance numérique. Bien, passons maintenant au corpus. Donc, les corpus que je vous présente aujourd'hui, c'est un corpus provenant de Twitter, voilà. Je vous dirai d'abord, les objectifs, c'était d'analyser comment sur Twitter s'est déroulé le scandale pendant des dates précises, c'est-à-dire la mise à lumière, entre guillemets, du scandale le 17 mars et l'aller au Parlement européen et nord-américain le 22 mai 2018 de Mark Zuckerberg. Donc ça, c'est mes dates, et c'est 65 jours, donc vous voyez, c'est une date qui est très, très précise, c'est 65 jours, donc pas plus. Et nous avons extrait, donc parmi les corpus, donc nous savons Cambridge Analytica, tous les tweets dans lesquels les mots Cambridge plus Analytica étaient énoncés en anglais, donc ça fait ce nombre de tweets, et toutes les fois où Cambridge Analytica a été énoncé en français, ça fait ce nombre de tweets que vous pouvez voir ici, pardon, je suis en train de regarder avec messieurs, mais c'est mieux comme ça. Et nous, aujourd'hui, sur quoi nous allons travailler ? Sur un total de 3758 tweets qui provient seulement de hashtag Cambridge Analytica en français. Donc, si vous voulez, c'est un sous-corpus de ces sous-corpus déjà. Vous voyez l'idée? Ça a été récupéré par une API qui a codé en langage Python, qui est extrait des données via l'API Twitter, qui nous a permis, en gros, de faire ça, en fait, d'extraire des listes qu'il faut anonymiser. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ça, mais qu'il faut absolument anonymiser, qui nous donne les nombres de retweets, les favoris, les liens, qui nous permet de voir les tweets dans son environnement écologique et de parution, qui est hyper important parce que, en fait, j'aurai ici une autre ligne qui va dire seulement les textes, qui me permettra d'analyser avec des outils de textométrie, mais nous ne pouvons jamais laisser de côté tout ça. Parce que vous voyez, il y a ces textes, il y a les hashtags, il y a un lien, il y a aussi une réponse à notre tweet, donc il y a beaucoup plus de choses à analyser que seulement l'outil langagier. Bien, donc l'objectif c'était d'analyser le déroulement du scandale pendant pendant cette période-là. La nomination d'un tiers des tweets contient des mots qui ont été déjà observés dans les corpus de presse pour nommer l'événement, c'est-à-dire affaire et scandale. Ça se répète dans les corpus de tweets. Les façons de nommer les scandales coïncident avec la façon de nommer l'événement sur la presse. Coïncide avec la façon de nommer l'événement sur Twitter. Ensuite, nous observons aussi que la nomination la plus utilisée, c'est scandale par rapport à affaire. Et si nous regardons de façon diachronique nos données, nous observons qu'il y a trois, ce qu'on appelle des moments discursifs, dans lesquels affaire et scandale vont augmenter ces occurrences, les deux plus ou moins de la même manière. Et ces trois moments correspondent à des faits très particuliers. Donc, le premier moment, c'est la sortie en lumière du scandale. Donc, je répète entre guillemets, parce que les scandales, enfin, déterminer quand ce qui apparaît, c'est difficile. Mais on va dire, aujourd'hui, pour s'entendre, c'est la sortie en lumière du scandale, où les deux nominations, ils apparaissent en pic, c'est-à-dire ils augmentent de façon forte et quasi continue au cours des deux premières semaines du déroulement du scandale. Une semaine plus tard, nous allons observer des tweets qui sont explicatifs. Donc, une semaine après le pic de cette dénomination, il va y avoir beaucoup de tweets qui vont dire, une semaine après le scandale, qu'est-ce qu'on peut retenir de Cambridge Analytica, par exemple. Vous voyez? Donc, il va commencer à avoir une sorte d'explication de qu'est-ce qui s'est passé. Deuxième moment discursif, il correspond à l'identification du nombre de comptes impliqués aux États-Unis. Et en Europe, cela témoignerait, donc hypothétique, du début du processus d'émancipation, car on commence à reconnaître les conséquences de l'affaire, les conséquences du scandale. Donc en fait, il y a une première identification de savoir quelle est l'ampleur de vol des données ou de l'aspiration, comme vous voulez, des données. Troisième moment discursif, il correspond à l'audience de Mark Zuckerberg, où l'augmentation des tweets sur cette période est liée à un phénomène qui est très courant, que nous allons observer par tous les articles scientifiques, où la transmission en direct télévisuel d'un événement, comme dans ces cas, dans un scandale, il y a un retombé aussi sur Twitter, en fait, où les gens qui sont en train de visionner la télévision, ils vont commenter qu'est-ce qui se passe pendant le visionnage de cette phénomène en direct. Donc, en fait, c'est une chose qu'on retrouve dans les autres articles et qui passe de la même manière dans ces cas-là. Ensuite, du point de vue plus qualitatif, nous observons ça c'était des exemples de trois moments. Rapidement, tout comprendre sur une semaine de scandale, ce que j'ai vu ici tout à l'heure, et scandale Facebook a récupéré les données des nombres d'utilisateurs en Europe et en France, et pardon, ça c'est donc en fait la transmission directe de Mark Zuckerberg quand il est au Sénat américain, nord-américain, États-Unis. Bien, résultat plus qualitatif. D'une part, il y a une négociation de la signification du sens de qu'est-ce qu'on entend par un scandale dans le cas de Cambridge Analytica. Donc, première à gauche tweet, c'est les scandales n'est pas Cambridge Analytica, c'est le modèle économique de Facebook. Cambridge Analytica n'est pas un épiphénomène, c'est tout un modèle économique d'accès aux données et d'exploitation, et celle-ci qui est l'éclair. Voilà. Donc, en fait, il y a une dénonciation de faits, mais aussi il y a un approfondissement pour qu'est-ce qui serait en fait l'objet du scandale. Et ça, c'est intéressant. Et ça, on ne peut pas l'observer dans des études quantitatives d'analyse, au peu, au moins, en fait, d'analyse quantitative d'études textuelles. C'est pour ça, en fait, que dans les recherches que nous menons aujourd'hui, notre idée, c'est toujours de faire des allers-retours entre des exemples concrets. Et deuxième aspect, il commence à avoir une reconnaissance des opprimés, c'est-à-dire en raison de la méfiance des utilisateurs face à la faillite, mais aussi à la fermeture de l'entreprise. Et qu'est-ce qui, dans ces cas-là, un des internautes, il va dire, ça constitue un simple lifting marketing. Oui, donc il y a un questionnement sur ces deux faits. Les utilisateurs de Twitter utilisent le réseau pour rendre l'événement visible, mais aussi ils reformulent et négocient également les sens de la nomination de l'événement, ce qui démontre une prise de conscience critique face à l'événement. Bien, deuxième point, il y a un empowerment que nous avons décrit comme un empowerment via praxis. C'est-à-dire, nous observons un exercice de la praxis. Et de la réflexion transformatrice, observée lorsque les utilisateurs commencent à partager des moyens pour éviter la surveillance et les vols de données personnelles. Cela va d'une action qui est plus individuelle, comme savoir si mes propres données personnelles ont été volées, à des actions plus collectives, telles que des appels collectifs, plus ou moins collectifs, à supprimer Facebook via les hashtags Delete Facebook, et à poursuivre en justice l'entreprise. Vous voyez, donc il y a comme une sorte de degré d'engagement, d'engagement face au scandale, que nous pouvons qualifier d'un processus d'empowerment qui va de l'individuel au collectif. Troisième aspect, il y a un empowerment via l'apprentissage, c'est-à-dire les utilisateurs, en plus de partager les conséquences du scandale, ils partagent des moyens d'anonymiser la navigation sur Internet sur différentes formes. En plus, ce sont maintenant commencent à être questionnés les mécanismes économiques d'Internet qui sont ciblés et non seulement dans les cas particuliers de Facebook. C'est-à-dire, on commence à amplifier les conséquences de scandales. Okay? Donc, il y aurait en fait les premières traces de l'émergence d'un problème public. Bien, je passe. Maintenant, nous sommes en train de finir. Je passe aux conclusions. La première conclusion un peu basique, mais que je tiens à la signaler quand même, c'est que la nomination, elle constitue un outil d'observation pour nos données qui est intéressant, qui nous sert à analyser nos données, du point de vue qu'il sert aussi à identifier qu'il a une négociation du sens aussi sur Twitter, c'est-à-dire ce que je vous disais au début. Les retweets, ça ne veut pas dire forcément avis favorable sur les tweets qui nous sont en train de citer. Ensuite, concernant la grille d'analyse d'empowerment, nous constatons qu'il y a une prise de conscience critique de l'événement sur Twitter, qu'il y a une reconnaissance de supprimer, c'est-à-dire une méfiance face, entre guillemets, aux solutions, et il y a une réflexion et plus tard des actions transformatrices qui vont de l'individuel au social. Okay? Donc ça parlerait de l'émergence d'un problème public où ce qui est questionné commence à être l'économie du numérique. Ensuite, les projections de ces travaux, donc la troisième étape sur laquelle je devrais commencer à travailler en février, mais ça va être peut-être un peu plus tard, ce sont les interviews des associations de lutte contre la surveillance numérique. Il y a une liste énorme, de ces associations qui travaillent, comme la Quadrature du Net ou autres, que vous devez connaître, qui travaillent en fait pour sensibiliser les citoyens et pour rendre visible la surveillance numérique. Et les projections aussi, c'est de comparer avec des autres contextes légaux, donc je pense à l'Amérique latine, je pense aux États-Unis, et des autres pistes, mais ça c'est une piste un peu plus nouvelle, donc en fait c'est à travailler plus tard, c'est l'émergence de la marchandisation de la vie privée. Je sais pas si vous avez déjà tombé sur ce type d'annonce, mais en fait, ça, c'est Firefox, je pense. Moins d'informations, plus de protection, pas de secrets. Voilà, ça, c'est bien à Firefox. Mmh. Ensuite, ça, c'était un message d'Apple. Mmh. En fait, ce qui est privé doit le rester. C'est pourquoi iPhone est conçu pour protéger vos données. Mmh. Avec, en fait, un liste d'images défilant en disant pourquoi le respect à la vie privée était important pour iPhone. Donc, en fait, je me suis trompée. Plus que la marchandisation de la vie privée, il y a aussi, en fait, la marketingisation. Elle n'existait pas. Mais voilà, l'aspect marketing de qu'est-ce qui devrait être la vie privée. Il y a des moteurs de recherche, pareil, un nombre infini de moteurs de recherche qui soi-disant protègent la vie privée des internautes. Et il y a des outils, donc ça j'ai trouvé génial parce que en fait voilà, j'ai vu cette publicité d'abord à la télé, ok. Ensuite je vais sur internet, c'est naviguer sur internet en toute sécurité partout à tout moment. Il faut les payer, hein. Il y a une réduction parce que c'est les soldes si vous n'êtes pas au courant. Et ensuite il lit mon adresse IP et il dit et statut non protégé. Vous voyez ? Donc, en fait, la peur et puis l'achat postérieur qui devrait être conséquence à cette peur. Voilà, j'ai fini. Merci.
Merci.